Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite sur RTL, on se fait du bien. Bonjour Caroline Charron.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain. Avec vous, on va découvrir la méthode Coué. Tout le monde connaît l'expression, mais qui était Monsieur Coué? Car il y a un Monsieur Coué. C'était qui?
Oui, absolument. Monsieur Coué, c'est Émile Coué. En fait, c'était un pharmacien. Souvent, on connaît même pas, hein, on sait même pas qu'il y a un personnage derrière la méthode Coué, mais oui, il y a une personne. Et c'est un bonhomme très bienveillant. Enfin, on le voit sur la photo en couverture de mon livre. Le regard pétillant. Enfin, on aurait tous voulu avoir un grand-père comme ça, les cheveux blancs, très, très bienveillant, qui a finalement découvert une méthode assez simple, voire simpliste, ce qui peut-être a posé des problèmes justement pour la pérennisation de sa méthode.
D'un mot, c'était une star dans les années 20. Dans quel pays ?
Alors, un petit peu en France, mais surtout à l'étranger, malheureusement. Est-ce que c'est d'autre côté trop cartésien qui a parlé ici? Moi, pour la petite histoire, j'en ai entendu parler quand j'habitais à Los Angeles. J'avais jamais entendu parler d'Émile Coué avant. Je connaissais la méthode Coué, mais plus comme presque une expression péjorative, plus qu'autre chose. Ouais. Et on m'en a parlé là-bas et j'ai un peu halluciné, je dois dire. Et c'est là où ma curiosité, qui est un bien vilain défaut,
c'est le bon mot,
a pris le dessus.
Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. C'est la formule inventée par Émile Coué. On dévoile le destin incroyable de ce petit pharmacien nancéen dans une minute sur RTL.
RTL.
Hier soir, en rentrant, j'étais un petit peu crevé. Non, j'étais bien. Pleine forme. Oh, je serais bien retourné travailler. Si j'avais du boulot, je vais bien, tout va bien.
Thomas Hugues, Sidoni Bonnec.
En fait, hier soir, j'ai fait comme tous les soirs. Je me suis couché tout de suite à 18h30. Seul. Ah, oui, je vis seul. Je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas.
La curiosité est un vilain défaut.
Je vais bien, tout va bien. La méthode Coué version Danny Boone sur RTL. C'est un héros français méconnu que l'on découvre dans la curiosité. Émile Coué, pharmacien nancéen, inventeur de la fameuse méthode. Avec nous, la journaliste donc Caroline Charron. On va comprendre que cette méthode Coué a d'abord été un peu confidentielle avant de se développer en France et puis un peu partout sur la planète, en tout cas dans les pays anglo-saxons. Émile Coué, c'est donc un pharmacien. Il exerce où ?
Alors, il exerce à Troyes. À la fin du 19e siècle, dans les années 1880. Et en fait, sa méthode, il va la découvrir derrière son comptoir de sa pharmacie, de manière totalement empirique. En fait, il va se rendre compte que quand... Il va découvrir d'abord le pouvoir de la parole. C'est-à-dire que quand il donnait un médicament à une personne, lui, il savait très bien ce qu'il y avait dedans, et c'était pas, à l'époque, extrêmement développé. Quand il donnait des paroles encourageantes, et qu'il disait « Tenez, prenez ça », avec des indications très précises, 3 fois par jour, à l'heure du repas.
Et ça ira mieux.
Voilà, et vous allez voir, ça ira beaucoup mieux. Même s'il savait que dedans, il n'y avait pas grand-chose, les personnes revenaient généralement 2-3 jours après en disant « C'est formidable, je veux à nouveau ces pilules, ça m'a vraiment complètement guéri. »
Donc il a expérimenté d'une certaine façon.
Ça l'a interrogé. C'était quelqu'un d'extrêmement curieux, qui s'est formé beaucoup tout seul d'ailleurs, qui avait cet intérêt pour ce qu'on pourrait appeler des médecines parallèles aussi. À l'époque, il y avait l'hypnose qui commençait à se développer énormément. Et donc, il s'est dit, mais il y a quelque chose là qui m'intéresse et que j'ai envie de continuer.
Donc, d'abord à Troyes, puis à Nancy.
Alors,
c'est
d'abord
ça, parce qu'on dit pharmacien nancéen.
Alors, le fait est qu'à Nancy, il a déménagé à Nancy en 1901, mais il a arrêté la pharmacie.
Pour se consacrer uniquement à sa méthode.
Exactement. D'accord. Il a épousé une femme qui s'appelait Lucie Lemoine, dont le père habitait à Nancy. Elle a beaucoup aidé à faire connaître sa méthode à Nancy. Et à partir de son installation à Nancy, il se consacre uniquement à la diffusion de sa méthode, qu'il a mis au point à Troyes.
Émile Coué pense qu'il peut guérir quelle pathologie avec sa méthode ? Tout ? Ou certaines pathologies?
Alors non, c'est là aussi où il y a eu pas mal de dérives, c'est que certains lui ont fait dire des choses que lui n'a jamais dit. Hein. Enfin, il a dit lui-même, je peux pas guérir une jambe cassée, par exemple. Hein. Par contre, alors ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais tout ce qui est d'origine psychosomatique peut être guéri par la méthode Coué. Et de fait, les médecins aujourd'hui disent qu'à peu près 50% de leurs patients ont des maladies d'origine psychosomatique.
Alors, mais c'est quoi, par exemple?
C'est quand le psychique agit sur le corps. c'est-à-dire qu'on se fait des autosuggestions inconscientes.
Et négatives.
Et négatives. Mmh.
Par exemple, si on n'est pas bien au travail et qu'on a tout le temps mal au dos parce qu'on en a plein le dos, c'est
ben,
un peu
exactement,
ça.
Exactement, le fait qu'on en ait plein le dos, ben effectivement, alors on va remarquer que selon les personnes, on va effectivement, quand on va pas bien, on a mal au ventre ou on a mal au rein, ou certains, ça va être les cervicales. Ça, c'est typiquement des maladies psychosomatiques.
Et la méthode Coué pouvait faire quelque chose
absolument,
pour cela.
C'est-à-dire que ce sont des vraies maladies. Hein. On ne dit pas que ce sont, c'est pas imaginaire. On a vraiment
on a mal ici et là,
et ça peut se développer en rhumatisme, en arthrose, etc. etc. Mais ça part d'un malaise psychique.
Et lui contrait ça par le simple pouvoir de la parole, de la suggestion, de l'autosuggestion.
Absolument. Alors lui, ce qu'il dit, c'est qu'on peut... que l'imagination a un énorme pouvoir. On connaît un petit peu mieux ça maintenant, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était révolutionnaire. Donc c'est vraiment le pouvoir de l'imagination qui est à l'œuvre ici.
Qu'est-ce qu'il conseillait, pardon, je interromps, à ses patients, aux gens qui venaient le voir? Il y avait des phrases, on a prononcé tout à l'heure cette phrase, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux.
Voilà,
qu'est-ce qu'il fallait en faire de cette phrase?
C'est un petit peu la phrase fourre-tout qui marche sur tout, on va dire, global. Après ça, on peut se faire chacun des suggestions sur une chose particulière. Je n'ai plus mal à la tête. Enfin, c'est des phrases positives qu'il faut dire, assez courtes et le plus précise possible, qu'il faut répéter 20 fois le matin et le soir.
C'est l'ordonnance.
Voilà, exactement, ouais. C'est l'ordonnance. De manière automatique, c'est-à-dire sans même réfléchir. Ça doit complètement en fait, être comme un mantra, j'allais dire. À voix haute, parce qu'il faut que ça rentre par l'oreille. Donc c'est en fait, on se repositionne. Quoi. On connaît ça maintenant en PNL, par exemple.
C'est une révolution,
PNL,
parce qu'aujourd'hui,
pardon,
évidemment...
programmation neurolinguistique.
Ça, c'est une révolution à l'époque, dans la France de l'époque, cette méthode. Quoi, comment il va la diffuser? De quelle manière il va la promouvoir ou la partager?
Alors, il va le faire de manière vraiment... il va donner énormément de sa personne. C'est-à-dire qu'il va sillonner d'abord la France, l'Europe, et puis les États-Unis, on y reviendra peut-être.
Il écrit des livres aussi.
Il a écrit un livre.
Oui.
Il a écrit un livre qui s'appelle La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente, qu'on appelle maintenant La méthode Coué. C'est un tout petit bouquin de poche qui est édité régulièrement. Il sort pour la première fois en 1921. Il a été traduit dans énormément de langues, une vingtaine de langues, et c'est ça qui va démarrer sa carrière internationale.
Monsieur Coué et moi, c'est le titre du roman que vous publiez aux éditions Complicité. Émile Coué, ce pharmacien de Troyes, installé ensuite à Nancy, qui va devenir une star donc aux États-Unis. On vous raconte sa tournée triomphale, c'est dans un instant sur RTL.
Bonjour, c'est Julien Courbet. Chaque jour entre 9h30 et 11h, écoutez votre émission qui règle vos problèmes. En direct, nous appelons la partie adverse et c'est parti pour une sacrée négociation. Alors à bientôt sur RTL.
Mais c'est vrai, quand on dit ça va aller mieux, parfois ça va mieux. Pas toujours.
Ah oui, pas toujours, oui.
Mais c'est la fameuse méthode qu'on utilise tous, plus ou moins.
RTL.
À 53 ans, il s'installe à Nancy dans cette maison rue Jeanne d'Arc. Puis il fonde ce qu'il appelle une clinique libre.
Sidonie Bonnec, Thomas Huc.
Et il a été accueilli aux États-Unis comme un héros, un pays où lui-même disait qu'ils avaient les pensées plus positives que les Français. Et c'était vraiment un représentant de l'intelligence française à travers le monde.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est un destin incroyable que l'on vous raconte sur RTL, celui d'Émile Coué, l'inventeur de la fameuse méthode. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. C'est cette formule qui conseillait de prononcer 20 fois le matin, 20 fois le soir, plutôt dans son lit, les yeux fermés. Caroline Charron, vous avez reconstitué la vie de ce pharmacien nancéen qui est devenu une véritable star américaine. Comment s'est-il fait connaître? Comment sa réputation a-t-elle pu dépasser comme ça les frontières de la Lorraine?
Alors, ça a été beaucoup par le bouche à oreille. Hein. Dès l'instant qu'il s'installe à Nancy en 1901, en fait, son beau-père est un notable de Nancy, qui est une ville industrielle plutôt en développement, assez intellectuelle, etc. Il va le présenter à tout le monde. Et donc, petit à petit, les gens vont venir à lui, en fait, par curiosité, qui est un vilain défaut ou un bon défaut,
mais
je ne sais pas.
C'est un bon défaut, ne vous inquiétez pas, c'est une antiphrase. Et,
voilà.
Et le bouche à oreille est bon, c'est-à-dire que les patients, les gens qui l'aident vont mieux.
Absolument, ouais. Les gens vont mieux et de fait, ils en parlent autour d'eux, à leur famille, etc. Ils envoient d'autres personnes et très rapidement, ça fait boule de neige.
Mais même avec des étrangers qui viennent le voir.
Alors,
assez rapidement,
voilà,
ça.
Les premiers, ça va être la première tournée en fait qu'il fait. Il a déjà 59 ans. Hein. C'est vraiment il est clos sur le tard, Monsieur Coué. C'est en Suisse parce qu'en fait, un étudiant en psychologie va faire sa maîtrise sur la suggestion et l'autosuggestion. Et il y a tout un chapitre sur la méthode Coué, parce qu'il est allé le voir à Nancy et il a vu en action comment il soigne les gens. Et donc, il explicite sa méthode, même mieux que Coué lui-même, qui n'était pas un théoricien. Hein, c'était vraiment un homme simple qui faisait les choses plutôt qu'il les expliquait.
Et on peut dire, Caroline Charron, que ses patients sont ses meilleurs publicistes. Par exemple, cette américaine, Ella Boyce Kirk, qui est-elle? De quoi souffrait-elle?
Alors, c'était une directrice d'école qui souffrait depuis de nombreuses années de dépression et un mal au genou. On lui avait même dit qu'elle finirait sa vie en chaise roulante. Et donc, elle avait entendu parler de Coué par quelqu'un qui était allé le voir et lui en avait parlé. Donc, elle vient un petit peu par curiosité, mais aussi un peu en désespoir de cause, de dire, bon, j'ai tout essayé, pourquoi pas ça? Et de fait, il arrive à la soigner en 3 séances. Elle est totalement enthousiasmée. Elle va écrire un livre en anglais qui s'appelle « Mon pèlerinage chez Coué », qui fait un tabac aux États-Unis. Donc là, le mouvement commence à prendre aux États-Unis. Et elle-même se met à enseigner la méthode là-bas. Enfin, à l'enseigner et puis à l'utiliser, à soigner des gens. Donc là, ça va être le germe aux États-Unis de l'intérêt pour Coué.
Et donc, Coué, il y aura cette tournée américaine.
Oui, il part en 1923, c'est ça, faire cette tournée américaine. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Qu'est-ce qu'il va...
Alors, il va faire deux tournées aux États-Unis, une en 1923 et un an plus tard, en 1924. Il est accueilli, mais comme un héros. En fait, il y a 3 Français qui sont accueillis de la même manière que Coué, c'est-à-dire avec la presse, les photographes, et puis des nuées de reporters et de gens qui le suivent partout. Il y a eu Clémenceau, il y a eu Coué, et beaucoup plus tard, il y a eu Charles de Gaulle. Donc, pour vous montrer un petit peu la stature de l'homme, on a du mal à imaginer aujourd'hui, hein, nous qui le connaissons à peine.
Il fait une tournée, c'est ça?
Et il fait une tournée, donc il va faire une vingtaine de villes lors de sa première tournée, réellement. Et il va faire à la fois ce qu'il appelle des causeries ou des conférences, où là il explique sa méthode, et puis il va faire des séances de guérison, ou alors là c'est l'hystérie totale, où il fait sortir les gens des chaises roulantes, où il y a des bègues qui arrêtent de bégayer.
En prononçant des phrases.
Absolument.
En faisant
absolument. Des gens perdent plus de rhumatisme, qui arrive complètement recroquevillé, qui se déploie, etc.
Mais ça me fait penser un peu à l'hypnose. On a fait consacrer une émission à l'hypnose il n'y a pas très longtemps. Il y a un peu de ça dans la méthode Coué?
Alors, Coué a démarré par l'hypnose. D'accord. Et il a commencé à utiliser l'hypnose dans sa pharmacie, enfin, à l'arrière de sa pharmacie, quand il expérimentait, il cherchait un petit peu sa méthode. Et il a fini par s'en éloigner parce qu'il s'est aperçu que finalement, ça n'apportait rien de mettre les gens sous hypnose. Ce qui était important, c'était la parole. Pour lui, c'était vraiment ça. Et que ce qui était important, c'était la suggestion. Alors, c'est vrai que sous hypnose, on fait aussi des suggestions. Mais là, il voulait que les gens prennent en main leur guérison. Et de fait, de suggestion, il est passé à auto-suggestion.
La curiosité, c'est jusqu'à 15h sur RTL. Vous voulez suivre une séance dans le cabinet d'Émile Coué à Nancy?
Ben oui.
C'est simple. Installez-vous en salle d'attente. Ça va être à vous.
J'attends pas.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
À la découverte de la méthode Coué et surtout du destin de celui qui l'a créé, inventé, Émile Coué, ce pharmacien nancéen. Grâce à vous, Caroline Charron, on a appris que son livre, traduit en anglais notamment et dans plusieurs autres langues, a été un énorme succès d'édition. Ça l'a emmené aux États-Unis, tournée triomphale aux États-Unis. Et là, on va revenir en France, dans son cabinet de consultation à Nancy, qui ne désemplit pas. Ça ressemble à quoi? Où se déroulent ces séances?
Alors, au départ, il recevait dans sa salle à manger, tout simplement, parce que, c'était des groupes d'une dizaine de personnes, quinzaine de personnes, c'était à peu près gérable pour faire ça autour de la salle.
Ah, c'est pas une séance solo? On n'est pas tout seul dans son cabinet,
quasiment,
comme avec un psy?
Quasiment jamais. Il a reçu quelques personnes, mais vraiment très souvent des personnalités. Le roi des Belges, Albert Ier, par exemple, qui l'a guéri de rhumatisme chronique et persistant. Bon, j'imagine que lui, il l'a vu seul.
Ça veut dire que tous les patients devaient dévoiler leur pathologie devant tout le monde?
Alors non, parce que en fait, il prenait quelques exemples. Mm-hmm. En fait, lui, il prenait aussi, il voulait faire que des séances de groupe, parce qu'en fait, en prenant quelques exemples, il allait guérir 3-4 personnes. Mm-hmm. Il ne pouvait pas guérir 20. Il faisait ça devant des fois des milliers de personnes, ou des centaines de personnes. Donc, il ne pouvait pas passer devant chacune personne. Par contre, il plantait la graine. C'est comme ça qu'il le disait lui-même. C'est-à-dire que quand on voit une personne qui, d'un coup, se lève de son fauteuil ou qui bégayait deux secondes vagabond d'avant et qui bégaye plus, ou qui boitait et qui là marche tranquillement, on se dit bah pourquoi pas moi, quoi, en fait. Hein, ouais. C'est un petit peu le principe.
Et donc lui, ça commence dans son salon, et alors après il y a trop de monde, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, après il y a trop de monde, donc il a fait construire une salle dans son jardin, en fait. Enfin, c'est vraiment très familial, quelque part. Et là, c'était des groupes d'une cinquantaine de personnes. Il pouvait en enchaîner jusqu'à 4-5 par jour. Il en faisait aussi en anglais plusieurs fois par semaine, parce qu'à Nancy venaient des Anglais, des Russes, des Italiens, enfin, des gens vraiment du monde entier. Et lui, il a appris tout seul l'anglais. Il parlait aussi italien. Enfin bon, il était vraiment un homme assez étonnant. Et donc, à chaque fois, il prenait quelques personnes qui soignaient. La séance durait à peu près 1h, 1h15. Donc, il donnait les principes de sa méthode. Il faisait faire des essais, par exemple, ce qu'on fait en hypnose, par exemple, serrer très très fort les mains, imaginer qu'elles sont collées, que vous ne pouvez plus les décoller. Enfin, bon, je ne suis pas hypnothérapeute, mais voilà. Et de fait, les gens ne peuvent plus décoller leurs mains tant qu'on ne leur donne pas le signal qu'ils peuvent le faire. Donc, voilà, il montrait par l'exemple comment sa méthode fonctionne.
Caroline Charron, dans votre roman Monsieur Coué et moi aux éditions Complicité, vous racontez l'importance d'un personnage autour de lui, c'est sa femme Lucie. Quel rôle elle va jouer auprès de lui? Pourquoi elle est importante?
Alors, un rôle très important. Déjà, c'est elle qui va l'inciter à s'installer à Nancy. Auparavant, il était pharmacien à Troyes, qui était quand même petite ville. Alors, il avait une petite réputation locale, etc. Mais ça dépassait guère la ville. Et dès l'instant qu'il s'installe à Nancy en 1901, son beau-père, le père de Lucie, justement, l'introduit à énormément de monde. Et il va vraiment rentrer dans un groupe de personnes qui l'encouragent. Il va se consacrer uniquement à sa méthode. Et elle l'assistait beaucoup. Il répondait à tous ses courriers. C'est-à-dire qu'il répondait à chacune des lettres. Il en recevait énormément, et sa femme faisait beaucoup ce travail-là et organisait aussi les séances pour lui.
Caroline Charron, vous nous avez dit en préambule que vous avez vous-même découvert l'existence d'Émile Coué à Los Angeles, parce que finalement cet homme, ce Français, qui devrait être un héros français, il est plus connu à l'étranger, notamment aux États-Unis, qu'en France. Comment vous expliquez ce décalage? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été vilipendé, il a été montré du doigt?
Oui, alors, même à l'époque, hein, il avait autant de partisans que de détracteurs. Donc, il y avait les détracteurs qui étaient aussi nombreux, même à l'étranger. Hein. On parlait des États-Unis où il a fait une tournée triomphale, enfin deux tournées triomphales, certes, mais il avait aussi des articles assassins, hein, des gens qui demandaient qui c'était ce charlatan, etc. Ouais.
De quoi on l'accusait?
On l'accusait de... Alors, en France, on essayait de l'accuser d'exercice illégitime de la médecine. Ça n'a pas abouti parce qu'il ne prenait pas d'argent. Ses séances étaient gratuites, hein, il ne faisait jamais payer personne. Et il ne donnait pas de médicaments, de fait. Hein, même s'il était pharmacien dans une autre vie, là, il ne proposait rien. Donc c'était vraiment un altruiste qui voulait juste aider les gens à aller mieux. C'est comme ça qu'il le formulait.
Et alors, donc, dernier mot, si vous deviez dire pourquoi la France ne l'a pas reconnu,
peut-être qu'on est... Alors un peu moins maintenant, mais peut-être trop cartésien, et on a tendance à croire que ce qu'on voit, et c'est vrai qu'il y avait un côté un peu miraculeux, on l'a dit tout à l'heure, quand on voit des gens sortir de leur chaise, alors on lui disait « Ah, mais vous les connaissez à l'avance, peut-être qu'ils n'étaient pas vraiment... »
Le scepticisme français.
Voilà, exactement, on a tendance à douter, alors que les Américains sont quand même beaucoup plus...
Puis on aime bien se plaindre aussi, c'est si bon.
Aussi, ben oui, parfois on aime bien rester là-dedans. Hein, donc,
bon, bah d'ailleurs, on n'est pas content parce que changer, c'était passionnant, hein. Cette interview,
mais oui, merci.
Caroline Charron, vraiment c'est pénible.
Ah oui, c'est insupportable. Merci beaucoup, Monsieur Coué et merci moi, c'est le roman que vous publiez aux éditions Complicité. Merci.
Vous écoutez RTL.